En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 22 novembre 2006, sous la coupole du Palais de l'Institut de France, s'est déroulée la séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts. Chaque année, au mois de novembre, comme les autres académies de l'Institut, l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des Beaux-Arts organise une séance solennelle. Selon l'usage, le président de l'Académie en exercice cette année-là ouvre la séance par un hommage aux membres disparus durant l'année. Le vice-président de l'Académie proclame ensuite les récompenses et le secrétaire perpétuel prononce un discours. Ces trois temps forts sont accompagnés de musique jouée pour la circonstance sous la coupole. Canal Académie vous propose d'entendre la retransmission de cette séance comme si vous y étiez. Cette année, François-Bernard Michel, président de l'Académie des Beaux-Arts, médecin, poète, écrivain et amateur d'art, a ouvert la séance. Avant l'hommage aux disparus, l'orchestre du Conservatoire supérieur de Paris, dirigé par Pierre-Michel Durand, a donné les deuxième et troisième mouvements du concerto pour harpe du compositeur François-Adrien Boieldieu. Sur la musique de cet académicien des Beaux-Arts du début du XIXe siècle, vous entendrez à la harpe Isabelle Perrin. François-Bernard Michel a ensuite prononcé le discours en hommage aux disparus, évoquant le sculpteur François Staly, les cinéastes Gérard Houry et Francis Giraud, le musicien Georges Ligeti, dont le Conservatoire supérieur de Paris, dirigé par Xavier Delette, a donné les troisième et quatrième mouvements du Kammerkonzert. Nous entendrons ainsi la musique de Georges Ligeti que nos auditeurs connaissent peut-être par les films de Stanley Kubrick, qu'il a mis à l'honneur dans deux de ses plus grands films, L'Odyssée de l'espace et Eyes Wide Shut. Après ce concert sous la coupole, Pierre Schoenderfer, le vice-président de l'Académie des Beaux-Arts, cinéaste, écrivain, a proclamé les récompenses. Plus de 60 prix ont été distribués. La lecture du palmarès fut interrompue pour entendre interpréter un extrait d'Orfeo de Claudio Monteverdi par le Chœur de Namur dirigé par Jean Tuderi. Le Chœur de Namur a été effectivement cette année lauréat 2006 du prix de chant choral Liliane Bettencourt. En suivant, le Chœur de Namur a aussi interprété le Kyrie d'une messe écrite sur la cantate Sciolto aven dall'alte sponde de Giacomo Carissimi. Giacomo Carissimi était compositeur italien du XVIIe siècle et a été considéré comme le plus grand compositeur italien de son siècle. Il introduisit dans les églises l'accompagnement de la musique instrumentale et fut le premier à employer la cantate pour des sujets religieux. Pierre Schoenderfer a ensuite repris la proclamation du palmarès 2006. Arnaud Dautrive, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, a prononcé un discours dont le titre est « La peinture et le mythe ». Pour clore la séance publique annuelle et selon l'usage aux Beaux-Arts, le morceau de Paul Dukas, « La fanfare de la Pairie », a été interprété par l'ensemble des cuivres du Conservatoire supérieur de Paris sous la direction de François Carré. Retrouvons de ce pas pour cette séance exceptionnelle, sous la coupole, François-Bernard Michel à la tribune.
Veuillez vous asseoir. La séance est ouverte. Madame et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les maires, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les conseillers, messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur le chancelier, mes chers confrères, mesdames et messieurs, au nom de tous mes confrères de l'Académie des Beaux-Arts, je vous remercie pour votre présence sous cette coupole à l'occasion de notre séance publique annuelle et vous souhaite la bienvenue. L'usage veut qu'au moment d'ouvrir la séance, le président salue la mémoire de ses confrères disparus au cours de l'année écoulée. Avant de rendre hommage à ces amis qui nous ont quittés, je vous propose d'écouter deux mouvements du concerto pour harpe et orchestre de François-Adrien Boieldieu par Isabelle Perrin, harpiste, et l'orchestre du Conservatoire national de Paris sous la direction de M. Pierre-Michel Durand. Il faut à présent évoquer la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année, et c'est avec émotion que je me tourne ici vers les proches de nos confrères pour leur exprimer notre tristesse. Il s'agit d'un membre de la section de sculpture, François Staly, de deux membres de la section cinéma et création artistique dans le cinéma et l'audiovisuel, Gérard Houry et Francis Giraud, qui viennent de nous quitter subitement, ainsi que de notre confrère associé étranger, le grand compositeur Giorgi Ligeti. Notre confrère sculpteur François Staly s'est éteint le 2 juillet dernier. Principalement connu pour ses nombreuses œuvres sur bois, cet artiste fasciné par les forces propres de la matière a, toute sa vie durant, exploré les liens entre nature, sculpture et architecture. Formé dans son Allemagne natale aux théories du Bauhaus, il fut l'élève à Paris de Malfray et de Mayol à l'Académie Ranson de 1939 à 1935. Pendant la guerre, il fit partie du groupe Témoignage avec Manessier, Lemoyle, Berthold et Martin. Particulièrement attiré par le bois, matériau qui lui semblait le plus propre à incarner la continuité entre nature et création, François Staly travaillait également la pierre, le granit et le bronze dans une recherche expressive toujours plus épurée. De 1960 à 1965, il séjourna aux États-Unis où il fut chargé d'enseignement à l'université de Berkeley ainsi que dans des ateliers collectifs à Aspen, Colorado, Washington et Seattle. Il réalisa de nombreuses œuvres à Los Angeles, New York, San Francisco. Reconnu internationalement, il reçut les plus grandes récompenses, telles le prix Matarazzo à Sao Paulo en 1957, le Grand Prix de la Biennale de Tokyo en 1965, ou encore le Grand Prix national de la sculpture en 1979. Il avait été élu dans notre académie en 1992. La France doit à François Staly de nombreuses commandes publiques, comme le portique de la Maison de la Radio à Paris, la fontaine du Parc Floral de Vincennes, ou encore le mémorial du général de Gaulle, porte-maillot. Outre son atelier collectif de Meudon, François Staly avait également créé les ateliers du Haut du Crété, atelier collectif où s'incarnait son rêve de communauté artistique. François Staly explorait la matière pour en révéler l'élan secret vers la forme. Par sa quête, qui jaillit de la nature comme elle sort des mythes antiques, son œuvre atteint à l'universel. Gérard Houry nous a quittés le 19 juillet dernier, mais son rire et sa belle humeur demeurent inoubliables dans nos esprits et dans ceux des millions de personnes qui connaissaient ses films. Peut-être est-ce le fait d'avoir frôlé la mort en tant que juif dans la France occupée qui lui fait prendre conscience de la nécessité vitale, j'oserais même dire métaphysique, du rire comme thérapie au tragique de l'existence humaine. Comédien pendant 20 ans, Gérard Houry était passé derrière la caméra en 1959 en réalisant son premier film, La main chaude, mais c'est Le Cornio, dans lequel il avait eu l'idée géniale de réunir Bourvil et De Funès, qui lui avait apporté la consécration du public en 1964. Le même tandem, reconstitué en 1966, avait conduit au triomphe retentissant de La Grande Vadrouille, qui, avec 17 500 000 spectateurs, constituait le plus grand succès populaire du cinéma français. Gérard Houry était devenu en quelques années l'un des plus brillants réalisateurs du cinéma comique et, évoquant la dimension ludique du cinéma, il disait lui-même « Je désire avant tout divertir, et s'il y a quelque chose à transmettre, il me semble que c'est un message social, celui de faire oublier leurs soucis aux gens préoccupés, de les faire rire avec des éléments exempts de bassesse, de violence ou de vulgarité. » Pourtant, Gérard Houry était loin d'oublier les problèmes du temps, lui qui, dans les aventures de Rabbi Jacob, faisait du rire le creuset du dépassement de l'antisémitisme, du racisme et des guerres de religion. Le cerveau, la folie des grandeurs, l'as des as, autant de chefs-d'œuvre qui touchent aujourd'hui comme hier les millions de spectateurs qui les découvrent, Gérard Oury avait été très ému par son élection dans notre Académie en 1998. Il voyait avec raison dans cette élection une reconnaissance inédite. Toute notre compagnie est sous le choc de la disparition subite de notre confrère Francis Giraud, qui nous a quittés dimanche 19 novembre à l'âge de 62 ans. Francis Giraud était reconnu par tous, collègues, collaborateurs et confrères de l'Académie, comme un homme d'engagement et de vérité. Son dynamisme au service du cinéma, des artistes et de la création qu'il aimait passionnément, son intelligence, sa gentillesse et sa disponibilité nous manqueront cruellement. Il avait débuté sa carrière au début des années 60 comme assistant réalisateur d'Alex Joffé, Jean-Pierre Mocky, Roger Vadim et Pierre Grimblat. Il fut par la suite journaliste au Nouvel Observateur et à l'ORTF de 1964 à 1966, producteur associé, notamment des films de Jacques Rouffio. Il passa à la réalisation dans un premier film, Le Trio Infernal, en 1974, avec Michel Piccoli et Romu Schneider, film qui fit sensation par sa liberté de ton inhabituelle dans le cinéma français. Ce non-conformisme cinématographique sera d'ailleurs l'une des constantes de l'œuvre de Francis Giraud. Outre ses longs métrages, il réalisa de nombreux films publicitaires et des documentaires consacrés aux grands cinéastes contemporains. Parallèlement à la réalisation, son pragmatisme et son engagement dans le monde du cinéma l'ont poussé à exercer de nombreuses fonctions. Membre de la commission d'avance sur recette, il mena une action importante au sein de la Société des réalisateurs de films de mai 1988 à octobre 1989, et de 1991 à 1994, il fut membre du conseil d'administration de la Cinémathèque. Son expérience de directeur d'acteurs et d'acteur lui-même lui servira aussi pendant les 10 années qu'il consacre à l'enseignement dans le cadre d'une classe caméra au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. En présidant cette dernière année la commission cinéma de la Société des auteurs et compositeurs d'art dramatique, il poursuivait son engagement pour la défense des droits d'auteur et de la création. Parmi son importante filmographie, on citera La banquière avec Romy Schneider en 1980, Le bon plaisir avec Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant en 1984, Passage à l'acte en 1995, Terminal en 1997, Mauvais genre en 2001. Deux de ses films étaient à l'affiche de cette année 2006, Un ami parfait avec Antoine Decaune et Carole Bouquet et Oncle de Russie avec Claude Brasseur et Marie-Josée Natt. Il travaillait actuellement sur le tournage d'un film sur l'affaire Allègre pour France 2. Sa trop brève présence à l'Académie des Beaux-Arts, où il avait été élu en 2002, avait été marquée par une collaboration sans faille. Il avait notamment participé avec Jean Cluzel à un échange remarqué sur le cinéma français. Comment évoquer en quelques mots la mémoire de l'immense figure qu'était Giorgi Ligeti, qui, élu associé étranger de notre Académie en 1998, nous a quittés le 12 juin dernier. Compositeur majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, Ligeti, né en Hongrie en 1923 et naturalisé autrichien en 1969, avait vécu dans sa chair les drames de l'histoire du XXe siècle. D'origine juive, il avait perdu son frère et son père à Auschwitz. Établi après la guerre à Budapest, où il étudiait et enseignait à l'Académie Franz Liszt, il avait choisi l'exil lors de l'arrivée des chars soviétiques en 1956, franchissant à pied la frontière autrichienne pendant la nuit. après avoir cherché, à la suite de Bartok, les ferments d'une régénération de la musique au sein d'éléments folkloriques, il avait découvert en Autriche les compositeurs interdits en Hongrie, qu'étaient Schoenberg ou Webern. Accueilli en Allemagne par Stockhausen, il avait rejoint l'avant-garde musicale, travaillant dans les studios de musique électroacoustique. Sa musique s'était néanmoins démarquée du dogmatisme sériel. Il déclarait vouloir inventer, je cite, « une musique statique sans rythme ni mélodie ni harmonie ». Cette musique, obtenue par de savantes superpositions rythmiques, est en réalité toujours en transformation d'elle-même, à l'image des œuvres choisies par Stanley Kubrick pour son film 2001 « L'Odyssée de l'espace », « Atmosphère », « Requiem », « Lux Aeterna ». La diversité de ces sources d'inspiration, qui allait de la musique centrafricaine à la géométrie fractale, entre autres, l'ampleur de ses recherches sur le matériau sonore sont à l'origine d'une œuvre immense à l'hétérogénéité stylistique revendiquée. Citons la pièce de théâtre musicale « Aventures et nouvelles aventures », deuxième quatuor à cordes, concerto de chambre, l'opéra « Le grand macabre » ou le cycle d'études sur lequel il travailla jusqu'à la fin de sa vie. Admiré par l'avant-garde comme par les modérés, l'itinéraire exceptionnel de Giorgi Ligeti aura été marqué avant toute chose par la liberté qu'il identifiait au processus même de la création. Seul l'esprit créateur qui se renouvelle sans cesse, écrivait-il, peut éviter et combattre ce qui est raide et figé. Si vous le voulez bien, à la mémoire de ces quatre confrères disparus, je vous invite à observer une minute de silence.
Après cette minute de silence, le président a repris la parole.
Je vous propose de prolonger ce moment de recueillement en écoutant les troisième et quatrième mouvements du Kammerkonzert de Giorgi Ligeti, interprété par l'orchestre du Conservatoire national de Paris, dirigé par M. Xavier Delette.
Thank you.
Après les peines, les joies de l'Académie, notre compagnie a heureusement pu élire cette année deux confrères dans sa section nouvellement créée de photographie, messieurs Lucien Clerc et Yann Arthus Bertrand, qui seront présentés lors de leur réception sous cette coupole. Aujourd'hui, notre joie procède aussi de la proclamation du palmarès des lauréats de l'Académie des Beaux-Arts, qui a le souci constant d'encourager les jeunes talents et les membres de ces différentes sections participant au jury des prix les décernent à des jeunes artistes. Soutien moral par le diplôme, soutien financier important, M. Pierre Schendorfer, qui va vous présenter le palmarès, vous dira combien l'Académie attache d'importance à ce soutien aux jeunes talents.
Cette séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts est un jour de fête pour notre compagnie et ses membres, et pour la création et les arts que nous célébrons aujourd'hui à travers les artistes de toutes disciplines ici présents. Avant de procéder à la lecture du palmarès et à la distribution des nombreux prix décernés, je souhaite saluer les donateurs d'hier et d'aujourd'hui qui nous permettent de distribuer chaque année ces nombreuses distinctions et de perpétuer ainsi notre action de soutien en faveur de la création. Je pense particulièrement à ceux qui sont présents sous cette coupole, Madame Liliane Bettencourt-Schuller, notre confrère Pierre Cardin, Madame Simone Lursa, notre confrère Michel David Veil, Monsieur Jean-Pierre Grivory, sans oublier la société Hewlett-Packard, le partenaire technologique de notre Grand Prix de l'architecture, ainsi que les sociétés éditrices des logiciels utilisés pendant ce concours, en particulier la société Autodesk et la société Arc Technology, mais également Advent, Adobe, Bentley, Cesium et Nemetschek. Nos pensées vont également vers Madame Simone Del Duca, qui fut correspondante de notre Académie et dont la générosité nous permet de distribuer par l'intermédiaire de l'Institut de France trois grands prix et des bourses importantes. À nos côtés, ces donateurs et ces partenaires œuvrent inlassablement à la défense et à l'illustration du patrimoine artistique de la France ainsi qu'à la promotion de ses artistes. Dans quelques instants, plus de 60 prix vont être remis. représentant un total de près de 500 000 euros, montant auquel il faut ajouter 410 000 euros d'aide et d'encouragement que l'Académie distribue annuellement aux artistes. Vous allez le constater, certains des prix distribués couronnent des artistes accomplis, déjà largement connus. Mais la majorité des prix décernés par l'Académie des Beaux-Arts sont des prix d'encouragement qui aident de jeunes artistes au seuil de leur carrière en leur procurant une reconnaissance institutionnelle indéniable ainsi qu'un apport financier parfois substantiel. Je vais à présent procéder à la proclamation du palmarès 2006 de l'Académie des Beaux-Arts et j'invite les personnes dont le nom sera cité à se lever et à venir chercher leur prix à la tribune.
Nous interrompons cette proclamation des récompenses. Le palmarès sera publié sur le site internet de l'Académie des Beaux-Arts. Pierre Schoendorfer, au cours de sa lecture du palmarès, a proposé d'entendre jouer le chœur de Namur, lauréat du prix choral Liliane Bettencourt.
Nous allons maintenant interrompre provisoirement la lecture de ce palmarès pour écouter le lauréat 2006 du prix de chant choral Liliane Bettencourt, le chœur de chambre de Namur sous la direction de M. Jean Tubéry.
Just as the rose, and the bell will be Thank you.
bravo pour cette interprétation des extraits de l'acte premier de l'Orfeo de Claudio Monteverdi et du Kyrie de la messe écrite par Giacomo Carissimi.
Nous interrompons cette proclamation des récompenses. Le palmarès 2006 sera publié sur le site internet de l'Académie des Beaux-Arts. Retrouvons à la tribune le président Jean-Bernard Michel.
Le moment est venu d'entendre à présent le discours de notre secrétaire perpétuel, M. Arnaud Dotterive, dont le thème sera cette année « La peinture et le mythe ». M. Dotterive, nous vous écoutons.
Merci. Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le grand chancelier, Messieurs les secrétaires perpétuels, Altesse, chers confrères, Mesdames, Messieurs. Aucun homme doué d'imagination ne peut fouler le sol de la Campanie sans ressentir la proximité du paganisme et l'éternelle fraîcheur de son art. Kenneth Clark, Le Nu. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Gauguin résume ainsi le sens de son œuvre au terme d'une quête artistique qui l'a mené jusqu'en Polynésie. Sur cette terre sauvage, il éprouve son art à la force des mythes et trace ce titre en haut, à gauche, de sa dernière toile à l'idole bleue, dans un large aplat de couleur jaune vif. Ainsi, le peintre nous pose-t-il une dernière fois les questions métaphysiques et artistiques qui ont hanté tout son œuvre. Question universelle du sens, de sa destinée humaine et de l'inspiration. Ce que Gauguin cherche à capturer, c'est bien le mythe vivant lorsque, loin d'être une fiction, une théorie abstraite, un répertoire d'images, celui-ci fournit les modèles pour la conduite des hommes et donne de la valeur à leur existence. Dans les sociétés primitives, en effet, comme le souligne Mircea Eliade, le mythe est un élément essentiel de la civilisation humaine. Il dit le lien des hommes avec le sacré. Il exprime, rehausse et codifie les croyances. Il sauvegarde les principes moraux et les impose. Il garantit l'efficacité des cérémonies rituelles et offre des règles pratiques à l'usage de l'homme. Le rôle de l'art dans ces sociétés est d'élaborer les mythes qui les constituent, puis d'en assurer la permanence. Ainsi en est-il de l'art pariétal magdalénien, ou pour prendre un exemple qui m'est cher, de l'art des Dogons au Mali. Or, loin de ces sociétés traditionnelles et loin de Gauguin, lorsque nous évoquons les mythes mise en scène dans l'art occidental, nous pensons plutôt à un répertoire de références hérité de la culture gréco-latine. Nous pensons à un ensemble de fictions, de motifs et de thèmes. Nous pensons à un catalogue dans lequel a puisé le grand genre à partir du XVIIe siècle. Iconographie riche et commode, imposée pour les morceaux de réception ou les grands prix de notre maison. Iconographie, comme on l'entend parfois, forcément sujette à l'usure et aux excès. Je pense pourtant que les grands peintres, à l'exemple de Gauguin, ont su, par-delà la fable et les clichés, conserver et retrouver la force créatrice des mythes, vrais hérités des Grecs. Je pense qu'ils ont su, par-delà la répétition des motifs, éviter la banalisation, préserver au contraire la substance, l'étoffe dont les mythes sont faits pour interroger le monde et l'ordonner, explorer l'âme humaine, ses doutes, ses désirs et ses passions. Tel est le propos de cette causerie. La source mythologique principale de l'art pictural occidental est grecque. Transmise par le monde romain, les érudits du Moyen-Âge et surtout les humanistes de la Renaissance, les mythes de la Grèce antique ont trouvé un regain d'intérêt particulièrement net à l'époque classique. Intérêt que les mythologies nordiques ou celtiques, un moment privilégié par les romantiques et les symbolistes, n'ont pas atténué. C'est que les mythes grecs ont en premier lieu l'avantage évident de se présenter comme un ensemble cohérent d'histoires. Le génie littéraire d'Homère, fixant par écrit les mythes colportés oralement par l'Énède, les Aèdes, a permis d'éduquer toute la Grèce, comme le rappelle Platon. Cet ensemble est rapidement systématisé et rationalisé par Hésiode, notamment au point qu'Aristophane considère déjà les mythes comme des fables et que Thucydide emploie l'adjectif mythode au sens de fabuleux et sans preuve. Autrement dit, dès l'Antiquité, les mythes ne sont plus forcément compris par les Grecs eux-mêmes dans leur sens originel, et c'est paradoxalement leur nationalisation qui les sauve auprès des élites hellènes puis romaines. Délesté de ses valeurs religieuses, l'héritage mythologique classique peut être admis et assimilé par le christianisme. Ce trésor culturel est ainsi transmis à l'ensemble du monde occidental. C'est en Italie d'abord que s'affirme et se renouvelle la connaissance de l'Antiquité grâce à la diffusion des textes traduits et imprimés dans des villes en plein essor où se regroupe l'élite intellectuelle. Au même moment, les fouilles font apparaître chaque jour de nouvelles statues, de nouvelles fresques. Les ateliers se multiplient et les commandes sur des thèmes profanes affluent. Ainsi, les peintres du Quattrocento, encouragés par les humanistes, à exalter la beauté et le génie humain, trouvent dans le panthéon grec et dans cet art de la Grèce antique, désormais sous leurs yeux, une nouvelle et remarquable source d'inspiration. Et la Renaissance s'affirme, en effet, d'abord comme la redécouverte d'une forme. Le corps des rêves gothiques, argile matérielle, associé à une âme immortelle chrétienne, est si différent de celui de la statuaire antique. La redécouverte de la beauté grecque favorise ainsi une véritable rupture esthétique dans la naissance de Vénus de Botticelli et l'éclatant exemple en retrouvant la vénération des Grecs pour Aphrodite. Le peintre invente en 1486 le nu féminin en peinture. D'autres personnages mythologiques féminins partageront bientôt avec Vénus le devant de la scène. Diane, bien sûr, au bain, à la chasse, Minerve et Junon dans les innombrables versions du jugement de Paris, les Grâces, enfin, ces trois attributs à la beauté idéale, selon Pic de la Mirandole. Un bas-relief antique inspire à Raphaël les ravissantes figures entrelacées que vous connaissez, et son admirable composition fermée et symétrique sera reprise par le Poppi ou Rubens. Cette représentation du corps humain constitue un tel renouvellement plastique qu'elle gagne rapidement la peinture religieuse, de sorte que l'inspiration mythologique influence aussi l'iconographie chrétienne. Je pense par exemple au martyr de Saint Sébastien de Palaiolo, représentant le corps dénudé, harmonieux et délicat du saint, indemne malgré les flèches. Dépourvu de souffrance, ce Sébastien nous fait davantage penser à Adonis ou à Apollon qu'à un martyr chrétien. De fait, il rappelle le premier nu masculin au corps parfait de la Renaissance florentine, le David adolescent de Donatello. La connaissance des œuvres et des mythes de l'Antiquité influence donc les peintres dans leur représentation plastique de la figure humaine, mais elle modifie également profondément la composition picturale. Grâce à la description des auteurs latins, Pline en particulier, les érudits connaissent depuis le Moyen Âge les décors en trompe-l'œil des théâtres. Ils connaissent également les fresques des demeures romaines ouvertes sur de vastes paysages. Mais cette représentation en perspective qui privilégie le regard humain est alors inacceptable pour les théologiens. À la Renaissance, au contraire, cette conception du point de vue héritée de l'Antiquité se développe en accord avec l'idéal humaniste. Je retiendrai pour illustrer mon propos deux œuvres réalisées autour de 1500. La fresque de Pinturicchio, connue sous le titre « Pénélope et les soupirants » et l'huile sur bois de Piero di Cosimo, intitulée « La mort de Procris ». Pinturicchio, sur cette fresque de 1509, représente encore les personnages à la manière gothique, sans ombre. Il innove cependant résolument dans la composition. Afin de raconter avec précision les principaux épisodes consacrés à Ulysse dans l'Odyssée, il décrit au premier plan la réception des soupirants par l'épouse fidèle. Celle-ci, comme chaque jour, vient de défaire sa toile au moment où entre le héros grec déguisé en mendiant. Au second plan, Pinturicchio ouvre une ample fenêtre pour évoquer deux épisodes antérieurs de l'œuvre d'Homère, la résistance d'Ulysse au sortilège de la magicienne Circé, puis au chant perfide des sirènes. On peut reconnaître ici l'influence des premières fresques antiques redécouvertes à Rome dans le Domus Aurei de Néron. L'utilisation de la perspective linéaire enrichit la narration et met en valeur les qualités du roi d'Ithaque, habile à ruser et à dissimuler afin de reconquérir son royaume. Ce modèle de souverain avisé et habile, fourni par la mythologie, concorde en effet avec les principes moraux prônés à l'époque, ceux que décrira Machiavel quelques années plus tard. Ici, le thème et le motif sont en parfaite harmonie. Piero di Cosimo, quant à lui, s'inspire d'Ovide pour représenter la mort de Procris. Dans cette œuvre étrange et fascinante, réalisée à la détrempe et à l'huile sur bois, on mesure les possibilités offertes par la perspective. La scène au premier plan présente la jeune princesse athénienne gisant dans un pré médiéval de mille fleurs. Rappelons brièvement les faits. Au terme de péripéties dont le principal mobile est la jalousie, l'époux de Procris, céphale atteint par erreur d'une flèche mortelle, son épouse qui l'espionnait. Céphale ne figure pas sur le tableau, sans doute s'est-il déjà donné la mort. Reste pour veiller la princesse un curieux faune et le chien Lélaps offert par Diane à Procris. Alors que les contemporains florentins de Cosimo comme Botticelli ou le Pérugin décrivent, comme nous l'avons dit, l'harmonie et la beauté humaine, Cosimo, lui, s'intéresse davantage aux chimères et aux animaux étranges de la mythologie. Il met donc en scène des personnes inhabituelles, comme ces hérons cendrés et souffrants, au second plan, qui créent l'atmosphère tragique. Cette représentation des oiseaux errants sur un rivage de douleur inspire à Cosimo un curieux paysage aquatique. On songe à l'un des cinq fleuves mythiques qui séparent le monde des morts de celui des vivants, l'Achéron peut-être. Le Léthé, ce fleuve de l'oubli, coulant avec lenteur et silence. Les lignes de fuite imprécises donnent l'impression d'un paysage noyé dans une lumière onirique qui n'est pas sans évoquer celle des tableaux de Dali et de Chirico. Piero di Cosimo, en adoptant pour cette composition un point de vue résolument subjectif, invente en quelque sorte un paysage mental. La mythologie grecque, qui occupe à côté des textes bibliques la place importante que nous avons vue dès la Renaissance en Italie, devient, lorsque les commandes se multiplient et se diversifient à l'époque classique et néoclassique, un réservoir inépuisable de sujets pour le grand genre. Ceux-ci varient en fonction des périodes, mais leur choix n'est jamais laissé au hasard. Les mythes choisis tirent leur force esthétique et morale de leur concordance avec la société du moment dont ils sont l'expression et la stylisation. Dès la fin du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les fables du poète latin Ovide sont une source inépuisable d'inspiration pour les peintres. Parmi les innombrables sujets traités, je m'attarderai un instant sur le thème des conquêtes de Jupiter. Les transformations et les enlèvements du plus puissant des dieux offrent en effet un très vaste répertoire de scènes dramatiques et charmantes. Tour à tour, nuées d'or, cygnes, aigles ou taureaux, Jupiter fait montre d'une virtuosité dont le but est double, échapper à la jalousie de son épouse et séduire, au besoin en ravissant ses proies. Ainsi, le mythe d'Europe a-t-il particulièrement séduit les peintres ? Véronèse propose une image simultanée des différents épisodes séduction, promenade, enlèvement. Titien met l'accent sur la scène dramatique du rapte grâce au mouvement ample qui traverse sa composition selon une diagonale ascendante. Rembrandt travaille la lumière pour mettre en valeur la distance qui sépare désormais Europe de ses compagnes restées sur le rivage. Lorsque Boucher reprend le thème à l'occasion du concours organisé entre les peintres de l'Académie, la mythologie galante est à la mode et l'œuvre est destiné à Versailles ou à l'un des châteaux de la Pompadour. Le peintre s'attarde donc plutôt sur l'épisode de séduction qui précède l'enlèvement. Le dieu a pris la forme d'un taureau et s'apprête, selon Ovide, à bondir et à emporter la future mère de Minos sur son dos au-dessus de la mer sur l'île de Crète. Cette scène de libertinage à l'érotisme élégant qui séduit les contemporains de Boucher, est pourtant rapidement déprécié. Diderot affiche son mépris pour la petite manière du peintre, pour la facilité de son style et sa mièvrerie. Ce changement de goût s'affirme aussi dans les sujets après la mort de Louis XV. L'Académie écarte la mythologie libertine de Boucher et plus généralement les dieux des métamorphoses d'Ovide pour s'intéresser davantage aux sujets héroïques et sévères d'Homère. On loue la grande manière de Poussin, puis l'esthétique de Vivien et de David, comme en témoigne la remarquable exposition de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, organisée en 2004, est consacré au thème homérique dans ses collections. En accord avec les valeurs des Lumières, les œuvres exaltent désormais la raison et la vertu. C'est la douleur d'Andromaque pleurant sur le corps d'Hector. L'œuvre de réception à l'Académie, grâce à laquelle David est admis à l'unanimité, mérite que nous nous y arrêtions. Le destin du héros troyen, trahi par les dieux et rappelé par les attributs peints fidèlement d'après Homère, épée et casque au cimier en crin de cheval. La douleur d'Andromaque éclate en pleine lumière, au premier plan. Vêtue de blanc, elle est assise, les yeux baignés de larmes, sa main gauche protectrice est posée sur le bras de son fils, tandis que sa main droite, dans un geste pathétique, montre le corps livide d'Hector. Devant elle, Astyanax tente d'atteindre le cou de sa mère dans un geste tendre et naturel. Ainsi, le destin tragique et froid qui s'abat sur les trois personnages, rendu par la sonalité théâtrale du décor, est-il corrigé, dominé, sublimé par l'humanité de ce geste simple, intime et quotidien. Les mythes racontés par Ovide retrouvent pourtant leur importance au XIXe siècle et au XXe siècle, pour des raisons que le tableau de Boucher nous révèle déjà. Au-delà de la douceur galante de la scène, au taureau blanc lié par un ruban de soie, aux cornes polies, aux sabots joints, le motif mythique choisi par le peintre rococo est en effet loin d'être mièvre. La langue sur le mufle humide et les immenses yeux vifs levés sur Europe rappellent le mythe archaïque du puissant dieu taureau, célébré à Sumer pour sa fertilité. Et ce sont ces lointaines origines qui survivent dans le mythe grec de l'enlèvement d'Europe, comme dans la plupart des mythes rapportés par Ovide. Les peintres sont restés sensibles à cette puissance d'évocation. Citons Gustave Moreau ou Gauguin, le Picasso du Minotaure, ou Matisse et son magnifique nu au taureau à l'érotisme apaisé. Cet exemple nous rappelle que la vitalité d'un mythe dépend de sa capacité à s'adapter aux valeurs d'une époque et qu'il se mesure en peinture à sa plasticité. À cet égard, le mythe d'Orphée, rapporté par Ovide, constitue selon moi un éclairage particulièrement pertinent. Aède, souvent identifié comme le fils d'Apollon et de la muse Calliope, les peintres de l'Antiquité grecque le représentent le plus souvent comme un enchanteur. L'Aède à la lyre, que nous admirons sur les vases à figures noires de l'époque classique, unit et charme par la beauté de son chant la faune et la flore sauvage. Les hommes, guerriers thraces apaisés, les ombres des enfers, des dieux enfin. À partir du XIXe siècle, les peintres vont pourtant inventer un tout autre Orphée. Cette invention est préfigurée par un portrait de Giorgione dont Isabelle Fessaghe fait une remarquable analyse. Ce portrait tout à fait singulier marque selon elle un tournant dans l'appréhension du mythe et exprime la souffrance du poète, une souffrance qu'elle qualifie de romantique avant la lettre, en accord avec l'image du poète ténébreux et incompris célébré par les artistes du XIXe siècle. Les poètes Musset, Mallarmé, puis Apollinaire s'identifient à lui. Les peintres également, au premier rang desquels on trouve Gustave Moreau. Chacun de nous a en mémoire le tableau du Salon de 1866, conservé au musée d'Orsay. La jeune fille Thrace portant la tête d'Orphée. Chacun de nous est nécessairement frappé par la puissance de cette image en miroir qui conjugue vertigineusement les contraires, vie et mort, masculin et féminin, dans une synthèse virtuose de l'art pictural. À partir de la jeune fille Thrace, le cycle consacré à Orphée va hanter littéralement Gustave Moreau, qui lui consacre plus de 70 œuvres. C'est que le motif plastique qu'il vient d'inventer, cette tête coupée, posée sur une lyre, constitue un symbole saisissant du pouvoir créateur de l'artiste et de sa quête de l'immortalité. Ce symbole qui interroge le processus même de la création artistique fascine donc son créateur et après lui toute une génération de peintres, à commencer par Odilon Redon ou Burne-Jones. Ainsi, par la grâce et le talent des peintres, vivent et se renouvellent, loin des clichés, les mythes de l'ancienne Grèce, comme le souligne Proust avec émotion en évoquant sa rencontre avec la jeune fille Thrace au musée du Luxembourg. Le texte est superbe et essentiel pour notre propos. Je ne résiste donc pas à le citer. Nous allons simplement, comme une femme portant la tête morte d'Orphée, devant la femme portant la tête d'Orphée. Et nous voyons dans cette tête d'Orphée quelque chose qui nous regarde, la pensée de Gustave Moreau peinte sur cette toile, qui nous regarde de ses beaux yeux d'aveugle que sont les couleurs pensées. C'est ainsi que les poètes ne meurent pas tout entiers, et que leur âme véritable, cette âme la plus intérieure qui était la seule où ils se sentissent eux-mêmes, nous est dans une certaine mesure gardée. Pourtant, les peintres de la vie moderne, comme le dira bientôt Apollinaire, en auront assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Alors que la critique et le public continuent de réserver le meilleur accueil aux peintres académiques et aux grandes peintures de l'Antiquité, les artistes de la modernité, là de ce monde ancien, observent le monde industriel et urbain qui naît et se transforme sous leurs yeux. Ils flânent comme Baudelaire, comme lui traduisent en légende le transitoire, le fugitif, le contingent, ces millions d'existences flottantes qui circulent dans les souterrains d'une grande ville. Ainsi, s'édifie de Monet à Caillebotte, de Manet à Delaunay, le mythe d'une vie parisienne féconde en sujets poétiques et merveilleux. La beauté surgit à tout instant de la réalité du monde présent, esthétique de rupture et d'innovation industrielle. Les impressionnistes explorent les nouveaux labyrinthes et les nouveaux temples de Paris éclairés au gaz, gares et ponts, parcs urbains, et cafés, grands boulevards et immeubles haussmanniens. Les héros de leurs œuvres sont des passants ordinaires, bourgeois ou ouvriers réduits à des silhouettes et à leurs attributs modernes, haute forme, canne, corset, ombrelle, parapluie. La composition des toiles met résolument en valeur les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux, symboles de la modernité. Au premier plan, des gares Saint-Lazare de Monet, signaux ferroviaires ou vapeurs de locomotives. Au premier plan, des Tuileries de Manet, chaises de jardin en fer, au milieu des boulevards pavés de Caillebotte, becs de gaz en fonte. Oubliez les dieux grecs, voir lorsque nous contemplons la dernière toile de Manet, le bar aux Folies Bergères. Au-delà du réalisme de la scène, situé dans ce nouveau et célèbre temple des plaisirs, ce qui frappe, c'est la composition. Une impression d'irréel et de poésie s'impose. Le spectateur ne saisit que virtuellement l'essentiel de la scène. La foule exubérante et composite, les bottines vertes d'une trapéziste en vol, le visage d'un dandy coiffé d'un chapeau de forme, noirs ne sont en effet que reflets du grand miroir qui occupe la moitié de l'espace pictural. Les lumières flottantes, globes électriques, lustres au gaz, se diluent dans ce miroir, accentuant encore l'atmosphère onirique. Seul et réel se détache derrière le bar, au premier plan, la figure principale du tableau. Une jeune serveuse en uniforme noir et au décolleté blanc orné de roses, nouvelle Vénus au miroir, étaillir ambigu, s'incarne encore dans la beauté de la déesse grecque. Et l'on voit ça et là, de façon inattendue, ressurgir un peu son immense corps. Dans les œuvres les moins académiques et les plus réalistes, celle-là même qui entend résolument exclure toute interprétation allégorique. L'Olympiade Manet, la femme à la vague de Courbet, la baigneuse au griffon de Renoir. Ainsi, la mythologie grecque demeure-t-elle une source d'inspiration essentielle pour les peintres jusqu'à revenir à l'image de Vénus hantée les mythes de la modernité. C'est que selon Yves Bonnefoy, les mythes de l'ancienne Grèce nous donnent les clés d'une transcendance authentique. Les dieux mis en scène dans des circonstances humaines par Homère ou Ovide ont en effet, selon lui, plus de substance et de profondeur que la pensée conceptuelle ne sait le dire. Le mythe, conclut le poète, est précieux pour les artistes parce qu'il incite au respect de l'existé humain. Il prédispose à aimer et il nous éclaire ainsi sur ce qui se passe au secret de notre rapport au monde, sur nos doutes, nos peurs, autant que sur notre capacité de confiance et d'assentiment. C'est justement, me semble-t-il, l'honneur des peintres d'avoir transmis, grâce à leurs toiles, ce trésor de pensée, d'imagination cosmologique et de préceptes moraux des Grecs de l'époque préclassique. En effet, le mythe relégué dans les bibliothèques se fossilise nécessairement et seule la mémoire, l'oralité, la tradition garantissent sa survie, comme nous le rappelle Jean-Pierre Vernin. En mettant en relation les sujets traités par la mythologie et les valeurs morales, intellectuelles et politiques de la société dans laquelle ils vivaient, les peintres ont perpétué la mémoire vivante des mythes. En s'écartant sans cesse, avec talent, avec génie, des pièges de la répétition et de la banalisation par l'élaboration et l'invention de nouvelles formes, ils en ont assuré la permanence, la puissance et la beauté.
Vous savez qu'il est d'usage sous cette coupole et à la fin de la séance solennelle annuelle de notre académie d'écouter la fanfare de l'Apéry de Paul Dukas qui sera interprétée par l'ensemble de cuivres du Conservatoire national sous la direction de Monsieur François Carry.
Thank you.
Vous venez d'entendre sur Canal Académie la retransmission de la séance solennelle, la séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts du mercredi 22 novembre 2006.